Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 26. Juni 2011 zum Thema L'interaction revisité. Zu Gast sind Christa Sommerer und Laurent Mignonneau, Interface Cultures, Kunstuniversität Linz. Gastgeber ist Eckehard Redelhammer.
Kepler Salon hat ja eines auch, man kann jederzeit dazukommen, man soll sich wohlfühlen. Es gibt auch jederzeit auch dazwischen noch Kaffee und Croissant. Ich muss die Einleitung leider im Deutschen machen. Ich kann sie leider nicht im Französisch machen. Das ist heute mein Manko, aber ich freue mich trotzdem, mich jetzt auf das einzulassen. Ich sage herzlich willkommen und vielen, vielen Dank fürs Kommen. Christa Sommerer und Laurent. Und da habe ich schon wieder mein Problem mit dem Ich freue mich sehr, dass ihr unsere Gäste seid. Ich kenne euch schon sehr, sehr lange von der Arbeit auch mit der Ars Electronica und kenne euch natürlich auch im Englischen in erster Linie, aber nicht mit der Sprache Französisch und freue mich sehr auf das Ganze. Und freue mich über den nächsten Kontakt mit Eckehard Redelhammer, dass wir uns da kennengelernt haben und mit dem Kepler Salon jetzt einfach die Chance haben, auch fremdsprachige Matineen hier zu machen. Das ist für uns wirklich ein Experiment, das wir auch jetzt wirklich einfach mal durchziehen. Es ist natürlich auch noch sehr wenig bekannt, dass wir das machen und durch das wir wirklich immer die Sprache wechseln, ist das jetzt der vierte Salon. Also wir haben Türkisch, Italienisch und Spanisch bis jetzt gehabt und das ist einfach Aufbauarbeit auch und ich sage einfach danke, dass ihr das Experiment auch dabei seid. Und Salon heißt für mich immer auch und darum haben wir das Mikrofon, wir zeichnen jeden Vortrag auf. Man kann alles auf MP3 nachhören. Das ist inzwischen ein großer Schatz seit 2009 geworden mit den verschiedensten Wissensgebieten. Dementsprechend ersuchen wir auch in diesem kleinen Kreis, wenn es eine Frage gibt, auf das Mikro zu warten, weil sonst ist die Frage nicht dokumentiert und dann scheint so manche Antwort ein bisschen komisch. Und ja, ich freue mich einfach auf diese nächste Stunde. Bis 12 machen wir das normalerweise und französische Kultur, auf das bin ich gespannt. Wenn wir noch ein bisschen warten wollen, gerne. Sonst einfach anfangen und losstarten. Genau. Dankeschön.
Merci, Iris. Alors, passons à la langue française. Et je suis très heureux, très content qu'on ait l'occasion ce matin de passer cette matinée en français sur un sujet très intéressant au Kepler Salon. Je m'appelle Catherine Lama, je suis le président de l'Amitié France-Autriche de Linz. C'est une association à but non lucratif qui rassemble tous les Français, tous les francophones, tous les amis de la langue française à Linz et on organise des manifestations et je vous invite chaleureusement, si vous avez le temps et le plaisir, de venir nous joindre. Alors, ce matin, on a un sujet très intéressant sur l'interaction homme-machine. Et nos amis Laurent et Christa vont nous présenter leur œuvre, leurs activités qu'ils font. Et avant de commencer, j'ai parlé à Christa et elle m'a donné quelques informations, quelques chiffres pour vous, pour les présenter. Alors, Laurent, il est né au sud de la France, en Charente. Christa, elle est autrichienne. Ils se sont rencontrés en 1991 à Francfort. À l'Institut pour Institut für Neue Medien, chez M. Weibel. Puis après, ils ont passé 2 ans aux États-Unis, à Chicago, et puis 10 ans au Japon, à Kyoto d'abord, au Centre des Arts, je dis en anglais, Advanced Telecommunication Research Center, à Kyoto, et puis après à Gifu, c'est aussi une ville japonaise, au Institute of Advanced Media Art and Science. Depuis 2004, ils sont à Linz. Ils sont des professeurs à la Kunstuniversität. Et comme ils sont un couple, ils ont aussi leur fils avec eux, c'est Léo, qui vous fait signe, qui a 13 ans, et apparemment, qui comprend très bien le français, c'est clair. Et alors, je pense que c'est maintenant le temps de passer la parole à Laurent pour nous présenter un petit peu votre œuvre, vos activités. Voilà.
Merci beaucoup pour l'introduction. Et puis, alors je vais directement peut-être montrer le travail un petit peu qu'on a fait pendant ces derniers 20 ans. Donc, j'ai préparé une vidéo, des informations, et je vais vous en parler. Donc, ce sont des installations interactives. Comprennent un certain nombre de technologies, donc nous utilisons les ordinateurs pour fabriquer des images ou du son, et aussi des interfaces. Donc, ces interfaces sont importantes pour nous parce qu'elles nous permettent d'avoir un dialogue avec le public. Donc ce ne sont pas des œuvres à juste regarder, mais il faut interagir pour la comprendre. Ces œuvres sont à peu près, nous en avons fait 20 environ. Je vais vous en montrer quelques-unes, et peut-être un petit peu plus si on a le temps. Il va falloir que je prenne mon ordinateur. Ah, c'est mal réglé. Ça va, on m'entend mieux? Comme ça, ça va? Très bien. Alors, l'ordinateur sur mes genoux, c'est plus pratique. Donc la première œuvre que nous avons réalisée ensemble, s'appelle Interactive Plant Growing. Donc, ce sont c'est une œuvre qui rassemble des plantes, de vraies plantes, des plantes d'appartement en fait. Hein. Donc, il y a une fougère, du lierre, un petit arbuste, un cactus et de la mousse. Donc, ce sont 5 plantes qui sont présentées devant le public et sur des colonnes. Et donc, on peut approcher ces plantes, et en les approchant, en mettant la main dessus, en fait, la plante capture donc la présence de la personne et commence à dessiner quelque chose sur l'écran. Donc, l'écran qui est en face des personnes est assez large. On voit donc des plantes pousser, hein, des plantes virtuelles. Donc, la plante fonctionne un peu comme une antenne. Il y a une interface qui prend les petites tensions que la plante génère, transforme ces tensions en informations informatiques. Et donc, j'ai fabriqué donc des algorithmes qui permettent de fabriquer en fait ces plantes sur l'écran en 3 dimensions. Ce ne sont pas des plantes qui sont dessinées à l'avance, ce sont juste des formules mathématiques en gros. Donc, lorsqu'on approche la main ou son corps de la plante, on a tout de suite une plante similaire qui pousse devant l'écran. L'interface, elle, retransmet ces informations en temps réel et ça permet de faire une sorte de jardin, en fait. Donc, l'image pousse, grandit, change, elle n'est jamais la même. Du coup, parce que ça dépend de l'interaction, ça dépend des gens, ça dépend de la façon dont on touche les plantes, ça dépend aussi combien de personnes sont là. Il y a la cinquième plante, s'il a fallu fabriquer une plante pour détruire l'image, parce qu'elle pousse, elle pousse, elle ne s'arrête plus jamais. Donc, on a utilisé le cactus pour ça. Donc, il y a un cactus dans l'installation qui est très difficile à toucher. Donc, c'est un gros cactus. Mais dès qu'on met la main dessus, on arrive à effacer l'écran. Donc, je vais vous montrer peut-être un film.
Because of the fact that you touch real plants, you approach your hand to the real plants, and by this you give information, you give status, you give your attention to the plant, the real plant or the living plant, plants capture this attention and give it through an interface to the computer, and on the big screen in front of you, virtual plants will start to grow. Without the people, this work would not exist or would not function.
As Krista and Laurent explain it, a plant can pick up the natural electricity in your body when you touch it or even approach it. Transducers near the plant's roots detect that human-to-plant charge and relay it to a graphics computer. The computer then generates and projects images of the plant. You touch the fern, the bush, the ivy, or the tree, and you create images. Touch the cactus, and this virtual garden is erased.
The plant itself is a sort of antenna, which has its own voltage, but is also capturing the voltage of people outside or the whole environment around.
By the approach and the contact of a viewer's hand to a real plant, the viewer can regulate in real time the process of this virtual growing on a high resolution 4x3 meter video screen. During the growing process, the viewer can direct the size of the plant, modify the rotation, can change the colors. Or control new places for new variations of the same type of plant. Since it takes some time for the viewer to discover the different levels of modulations, the viewer acts as a randomizing factor for the plants by giving to them a very unique character. The communication between people and plants in the common virtual growing scene can also be an indirect communication between people through the plants. To stop the growing process and to clear the full screen, a special fifth plant, a cactus, must be touched. This contact initializes the so-called killer plant, which slowly begins to engulf the whole picture by a special algorithm.
On est désolé, on n'a pas cette vidéo en français, c'est juste en anglais.
Voilà, donc cette pièce, c'est une, en fait une bonne synthèse de ce que nous faisions à l'époque aussi, avant de se rencontrer, en fait, nous sommes tous les deux artistes. On a fait des études un peu identiques et un peu différentes aussi. Christa fait des études de botanique, mais peut-être tu veux en parler, Christa, bon, directement.
Oui, mon français n'est pas trop bien, mais j'ai étudié botanique à Vienne, dans l'université de Vienne, et après sculpture dans l'Académie, Kunstakademie, also Académie der Bildenden Künste à Vienne. Et quand j'ai rencontré Laurent à Francfort, on a décidé de travailler ensemble, et cette œuvre, c'est une combinaison, une sorte de mélange entre les intérêts communs.
Aussi. Non. Ça marchera quand même. Mais peut-être différemment de d'autres personnes. Parce que ça dépend des tensions qu'on a dans le corps. Mais bon, la plante reçoit quand même des informations, malgré tout. Ça dépend.
Mais c'est vrai, on voit pas tout de suite ce qu'on fait. C'est plutôt, on voit que si ça se passe quelque chose sur le camp, mais de comprendre tout de suite qu'est-ce que j'ai fait, c'est pas en fait évident, non?
Voilà, il y a des variations. Donc la plante pousse pas de la même façon. Si on approche sa main doucement, par exemple, de certaines feuilles, des paramètres vont changer. Donc la plante va peut-être pousser différemment. Elle va s'entortiller peut-être, ou elle va s'étendre beaucoup plus, ou elle va changer de couleur. Il y a des variations de couleurs, donc ça peut être plus couleur d'automne que couleur de printemps. Les feuilles peuvent se développer plus, etc. Donc il y a tout un tas de paramètres, mais ils ne sont pas directement visibles. Donc on n'est pas en train de conduire comme un joystick, donc c'est différent, mais c'est sensible. Donc on peut apprendre de la façon dont la plante réagit. Et la plante réagit même de façon différente dans la journée. Donc il y a des moments où elle est moins sensible, il y a des moments où ça devient très très sensible. Elle peut même détecter les personnes avant qu'elles arrivent, ce qui peut arriver assez souvent.
Est-ce que vous le saviez déjà avant que les plantes réagissent de telle manière?
Oui. Bon, c'est une interprétation, évidemment. Donc, ce sont des informations qui sont issues de la plante, mais qui sont un petit peu plus des notions de distance entre la personne et la plante. La plante génère beaucoup plus de signaux encore. Hein. Donc, scientifiquement, oui, il y a des études sur la façon dont les plantes génèrent les informations. Ça ressemble un petit peu à des oscillations du cerveau. C'est un peu la même chose, c'est plus simple, mais c'est complexe. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'activité dans la plante, il n'y a pas de cerveau dans la plante, donc c'est toutes les cellules qui participent à ces impulsions. Et ces impulsions, on peut les détecter, et elles changent dans la journée. Donc elles deviennent plus ou moins intenses, mais elles sont aussi modifiées par la présence de personnes. Donc ça, je peux le détecter, donc, par l'intensité, en fait. Oui.
Je pose aussi une question. Comme j'ai travaillé dans ma thèse sur la théorie du chaos, J'ai vu qu'il y avait la géométrie fractale de Benoît Mandelbrot,
oui, oui.
qui produit aussi des structures géométriques
oui.
et aussi, disons, des plantes. Est-ce que tu utilises ce genre d'algorithme ou de...
Oui. Alors, ce sont des algorithmes qui sont très lourds, en fait, pour les calculer. Maintenant, les ordinateurs sont capables de le faire en temps réel, mais à l'époque, c'était il y a 20 ans, ces algorithmes-là étaient beaucoup plus difficiles à implémenter dans les machines pour du temps réel. Donc, moi, j'ai fait une autre solution. En fait, toutes les plantes ne sont pas fractales. Donc, elles utilisent toutes sortes de systèmes pour se reproduire et pour se développer. Donc, les fractales représentent une certaine catégorie de plantes, mais pas toutes les plantes. Donc, certaines plantes, comme le lierre, ne sont pas fractales, par exemple. Donc, les fougères, par contre, le sont. Ça dépend. Mais elles ne suivent pas une loi mathématique. Donc, c'est des principes qu'on retrouve, mais c'est des analogies. Mais les plantes, elles n'ont rien à faire des mathématiques. Elles poussent de la manière dont elles ont évolué, donc c'est différent. C'est pas du tout la même chose. Par contre, oui, les algorithmes, quand on commence à les étudier, c'est intéressant parce que plutôt que dessiner une plante qui est déjà difficile en 3D, utiliser des algorithmes sont plus pratiques puisqu'on peut fabriquer 1000 plantes différentes avec la même formule, en fait. Il suffit de rentrer des paramètres différents. Donc, c'est une sorte de facilité dans un sens. Et puis, nous, ça nous intéressait parce que on était sur cette pièce plus intéressés sur la multitude. Donc, essayer d'avoir aussi, pas comme dans un jeu vidéo où tout est déjà préparé, mais plutôt sur l'instant. Donc, ça parle du présent. C'est-à-dire que la présence de la personne, ce qu'elle fait à ce moment-là, et la réaction de la plante. Donc là, on suit, tout est imbriqué. Et donc, ce n'est pas un film. On ne peut même pas le reproduire, parce que c'est chaque fois différent.
Et je pense qu'il faut dire aussi, comme tu as dit, ce sont des simulations, ce ne sont pas les lois,
voilà.
Comme les plantes poussent, mais ce sont des simulations, ce sont des interprétations.
Voilà, ce sont des interprétations. De toute façon, c'est difficile, même encore aujourd'hui, de savoir comment les plantes poussent vraiment. C'est-à-dire que c'est des systèmes complexes, il y a énormément d'interactions entre cellules, donc il y a encore des recherches là-dessus. Le développement des plantes, c'est encore quelque chose qui est utilisé aujourd'hui. Donc, on peut en implémenter une partie, on peut en comprendre certains principes. Et donc, nous, en tant qu'artistes, on a fait une interprétation, en fait. Alors, l'évolution rentre en jeu, mais là, je veux justement en prendre... on a des pièces qui sont spécifiquement sur l'évolution. Donc, là, ça va être la prochaine fois. Donc, on en est arrivé exactement à cette conclusion. Que pour se libérer en fait de la contrainte de fabriquer quelque chose, il valait mieux les faire évoluer. Donc c'est exactement le point suivant.
Si vous voulez poser des questions, faites-moi signe pour qu'on vous passe le microphone, sinon, comme Christelle avait dit, ce ne sera pas enregistré.
Mais Laurent, peut-être sur la croissance de plantes, il y a des chercheurs comme Ponskiewicz oui. qui ont écrit des livres. Sur exactement l'idée, comment ça se passe la croissance des plantes. Et il a fait des L-systèmes, par exemple.
Linnemeyer.
Lindemeyer. Mm-hmm. La croissance des plantes, le système L. Peut-être vous connaissez le livre. Et ça nous a inspiré aussi un petit peu de faire des travaux comme ça.
Donc là, c'est un mélange en fait de nos pratiques différentes, parce que j'ai étudié l'art aussi, mais en même temps l'électronique et l'informatique quand j'étais plus jeune, quand j'avais son âge. Et on a regroupé tout l'ensemble en fait, la botanique d'un côté, l'interaction qui m'était plus propre, et puis en même temps donc l'électronique, les interfaces. Donc tout ça, ça s'est synthétisé dans cette pièce. La prochaine pièce donc que je vais vous présenter a été faite en 94 et c'est donc un système qui permet de fabriquer des créatures. Donc là, on n'est plus dans le domaine des plantes, mais plutôt dans le domaine plutôt du mouvement. Et c'est un bassin, en fait, qui est présenté aux visiteurs. Il y a de l'eau, normalement, dedans, dans le bassin. Il y a une projection par-dessous. Et on voit donc des créatures évoluer dans une sorte de simulation aquatique. Je vous présente un petit peu la façon dont on crée ces créatures. Donc, il y a un écran tactile à côté de ce bassin. Et avec son doigt, on peut juste dessiner deux formes, en fait. Il y a une forme qui se trouve ici, sur cette fenêtre, qui représente la vue de profil, en fait, hein, comme si j'ai un verre, je vois le verre comme ça, donc ça me fait une vue de profil, et ensuite, quand je retourne le verre, donc j'ai la vue de face, qui est de l'autre côté, ici, donc si je fais un cercle, par exemple, j'obtiens un verre, parce que c'est la synthèse des deux dessins, fait une forme en trois dimensions. Donc là, en faisant ce dessin très rapide, j'envoie avec le bouton Send la créature dans le bassin, qui se retrouve dedans et commence à nager. Donc, une fois dans le bassin, les créatures se mangent les unes les autres, elles se pourchassent, elles se reproduisent aussi, donc elles peuvent avoir une sorte de système, un cycle, en fait, de reproduction, manger et mourir aussi. Donc elles meurent au bout d'un certain temps, elles n'ont qu'une minute à vivre, donc c'est très très court. Mais dans cette minute, elles peuvent arriver à trouver de quoi se nourrir, donc elles mangent une autre créature qui était moins rapide. Donc là, on parle de l'évolution, parce que en faisant de génération en génération, les créatures changent. Donc le code génétique, en fait, c'est le dessin. Donc la forme est enregistrée dans cette créature, et quand elle se reproduit, en fait, c'est le mélange des deux formes. Donc les créatures résultantes, les enfants de créatures, obtiennent donc des formes qui sont issues des parents, mais aussi des choses un peu aléatoires. Donc au bout de certaines générations, peut-être 10 générations, on obtient des créatures qui sont un petit peu plus rapides, se déplacer pour se nourrir, et donc elles ont une chance plus accrue donc de survivre et de se reproduire encore une fois. Donc le système est ouvert, ça peut être aussi long qu'on a envie de faire des créatures avec. Malgré tout, si plus personne n'est là, toutes les créatures vont se manger les unes des autres. Donc c'est un système qui s'autodétruit dans un sens, puisque il n'y aura plus rien à manger. La dernière créature va être là pendant une minute et puis va mourir. Donc c'est un système qui ne vit que par l'interaction du public.
Evolve, visitors interact with virtual creatures which swim in the water-filled glass pool. They create the creatures before on a touchscreen and interact with them afterwards in the pool. The creatures themselves have their own lives. They evolve, they can mate, they can kill each other, and they're sort of artificial life creatures which are open to outside influence, but still have their own life and their own rules and their own laws inside, and interact between each other as well. So the basic concept of Evolve was to create an artificial life environment which is open to an outside influence, which is open to the interaction with people, and has also this entertaining effect on the visitors. Each creature gets created by the visitors. The visitors create the forms on the touchscreen. They create a two-dimensional form, which is a shape and a profile. And this two-dimensional drawing gets automatically transferred in a three-dimensional creature. And this three-dimensional creature now swims in the water of the pool. And you can interact with it by touching it, by putting your hand in the water, and trying to bring two forms together, and you can sort of push them together or influence their behavior by stopping one of them. So if you touch one of the creatures in the middle, it will freeze, it will stop to move, whereas when you touch it more behind, it will sort of push the form forward. And like this, you can influence whether one gets killed or not by protecting it. So let's say one predator is aggressing a prey, then you can stop the predator, and like this the prey can escape.
I was interested to implement genetic into this work to somehow escape to my own design or my own wish to build something special, but to let finally the opportunity for the work to evolve by itself or to change its aspect.
ça s'inspire quand même de choses du domaine scientifique. On a travaillé aussi avec une personne qui s'appelle Tom Ray, et donc qui est spécialiste dans l'évolution sur informatique. Donc elle a fait des programmes qui peuvent évoluer. Et donc on s'en est inspiré aussi pour essayer de l'implémenter dans une œuvre d'art, en fait. Donc c'est une chose qui a été créée donc en 94, qui n'était pas facile à l'époque non plus, parce que bon, il y avait beaucoup de technologies devaient être inventées. Donc là il y a un écran géant de 2 mètres qui en même temps est tactile, donc il a fallu fabriquer tout ça. Donc j'ai dû travailler sur l'interface, fabriquer des choses avec des caméras, parce que les ordinateurs étaient beaucoup trop lents à l'époque pour pouvoir capturer tout ça. Donc ça m'a permis aussi d'apprendre beaucoup de choses au niveau d'électronique et donc de développer d'autres pièces plus tard. Christa a aussi travaillé sur la façon dont l'évolution fonctionne à l'intérieur. Là, tu veux peut-être dire quelque chose?
C'est difficile à dire en français, mais oui, c'est vrai, on a étudié pas mal de la vie artificielle. Ils ont eu un groupe à Santa Fe qui s'appelle Artificial Life Group, le système complexe. Et on a aussi participé un petit peu comme artiste dans les conférences de vie artificielle. Et leur objection, c'était plutôt étudier l'évolution sur ordinateur et peut-être retrouver, peut-être vous pouvez expliquer un petit peu sur le système complexe, comment ça se passe l'émergence, comment on peut simuler des systèmes complexes pour voir si jamais c'est possible de retrouver les données, oui, des interactions pour avoir une sorte de système émergent. Et on a aussi essayé avec système Evolve de trouver les choses qui ne sont pas programmées en avance, mais qui émergent tout seul. oui, plutôt chaos, mais l'émergence. C'est peut-être ton domaine, non?
Oui, c'était, mais je ne suis pas mathématicien. mais je me rappelle qu'à cette époque-là, il y avait aussi... Quelques années plus tôt, il y avait les discussions sur l'intelligence artificielle. Alors, c'était la grande discussion. Et quand, je pense, à l'époque-là, en 1994, alors là, on était en... Ces discussions étaient déjà faites et on a fait des démarches encore plus vers d'autres activités. Et je pense qu'il faut penser aussi à l'époque les ordinateurs, comme tu avais dit, c'était des ordinateurs qui n'ont eu pas de puissance, même pas de puissance. Mais c'est vraiment très impressionnant de voir comment vous avez fait avec des écrans de 2 mètres. Sans tactile, sensible à la tactilité, de créer ces œuvres-là. Oui.
Je me rappelle, on a montré, peut-être Ingrid, tu étais là, dans les années 94, on a montré là dans le Landesgalerie, et l'ordinateur c'était grand comme un frigo, non? C'était
frigo, oui.
Comme un frigo. C'était énorme, c'était tellement lourd, ils ont eu 5 personnes pour transporter
l'ordinateur. Les escaliers.
C'était impressionnant quand même.
Oui, quand on y pense, c'était beaucoup d'efforts finalement.
Ouais, maintenant tu peux faire la même chose avec le petit ordinateur,
oui.
Comme ça.
Ça change.
Oui, comme ça, oui.
Donc à l'époque, il fallait travailler dans des institutions pour trouver ces genres de matériaux parce que c'était impossible à acheter, ça coûtait très très cher. Donc on a trouvé donc ces ordinateurs au Japon. Donc nous travaillions à l'époque à ATR, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de public japonais à l'époque. Et donc ça nous a permis aussi d'accéder à ces machines, de travailler dans un centre scientifique en fait, hein, pour développer ces choses.
Et aussi, c'était intéressant à l'époque parce que l'industrie de entertainment, ils ont commencé aussi de tout découvrir que c'est peut-être intéressant pour les jeux. Par exemple, peut-être vous rappelez les Tamagotchi. c'est juste commencé à cette époque aussi, parce qu'ils ont eu, ah, c'est peut-être intéressant pour les gens de jouer avec les jeux qui sont un peu d'évolution dedans. Et les Tamagotchi étaient très très populaires au Japon, peut-être ici aussi. Plus ou moins.
Donc je continue. C'est une autre pièce. On s'est intéressé à plusieurs domaines. Donc ici, c'est sur Internet. Donc c'est un système qui permet d'interagir à partir d'un ordinateur quelconque. Et avec un clavier, donc on tape un texte et ça permet de faire une forme en fait. Donc en tapant le texte sur ce petit écran ici, ça fait pousser une plante, une sorte de forme. C'est pas une plante, donc c'est une forme un peu aléatoire, mais qui se développe donc dans le temps. Et cette forme, ça prend 10 secondes pour se développer, et cette forme va rejoindre une image où d'autres formes ont été faites auparavant. Donc ça se colle par-dessus. Et on peut interagir de cette façon si on clique en fait un des points d'une des formes qui ont été créées auparavant, on retrouve le texte original de cette forme. Donc là, on a une sorte d'herbarium, on l'a appelé verbarium, parce que ça fait partie du langage, et donc qui permet de fabriquer quelque chose et en même temps de le modifier, de changer le texte, de retrouver le texte, un peu comme c'est une analogie en fait à la recherche de l'ADN, donc qui est faite maintenant à grande échelle, mais à l'époque c'était les débuts aussi. Donc essayer d'extraire de l'information une information qui donne du sens à la forme. Donc essayer de comprendre comment cette forme peut être fabriquée. Et là, on a donc fait une analogie donc au code génétique, c'est-à-dire que la transformation entre le texte et la forme est logique, mais je ne la connais même pas moi-même. J'ai fabriqué le programme, mais je ne peux pas le prédire. C'est-à-dire que je l'ai fabriqué de façon à ce que chaque lettre du mot ou de la phrase code pour quelque chose de spécifique dans la forme. Par exemple, ça part simplement d'un cercle, donc c'est juste un cercle qui progresse dans le temps et peut faire des branches, donc s'épanouir, enfin s'élargir. Les couleurs peuvent changer, la forme du cercle peut changer, etc. Donc on a des formes qui peuvent être très très différentes. Je peux vous en montrer. Donc ça fait des choses comme ça, une sorte de sculpture en fait, mais qui prennent un petit peu la forme de plantes de temps en temps ou de choses organiques. Donc c'était l'idée de ne pas imiter absolument quelque chose de réel, mais que la logique du texte se retrouve dans la forme. Mais pas d'une manière, par exemple, si on dit rouge, ça ne va pas être rouge. Par contre, le mot rouge va fabriquer quelque chose de spécifique, et on peut le taper deux fois, c'est deux fois la même forme. Donc il n'y a pas de hasard à l'intérieur. Chaque lettre vraiment code quelque chose. Donc, c'est en ligne, il y a énormément d'informations, de textes, les gens s'écrivent les uns les autres, ça peut arriver, ils font des expérimentations, on essaye avec des lettres, des chiffres, tout un tas de choses. Donc, il y a des millions et des millions de formes qui peuvent être générées. Et donc, l'image qui est ici change tous les jours, donc elle change tout le temps. Malheureusement, je ne l'ai pas en ligne ici, mais bon, c'est possible d'interagir avec. C'est une œuvre en constante évolution, et celle-ci n'est pas donc une installation. On peut l'installer, on peut la regarder chez soi. Alors, on a fait plusieurs sortes d'expérimentations. Celle-ci est un peu étrange. Donc, elle a été montrée à l'INS en fait pour la première fois. C'était en 2001. Donc, c'était en plein boom des téléphones à l'époque, dans les années 2000, des téléphones portables, en fait. Et on s'est dit, c'est bien joli, on a beaucoup de choses qui peuvent être transportées, la voix, et puis l'image, mais les sensations, le toucher, rien. Il n'y en a toujours pas, d'ailleurs, 10 ans après. Donc, on s'est dit, on va fabriquer quelque chose qui va être une sorte de téléphone, mais qui transmet des choses qui ne sont pas du tout du domaine de la voix ni de l'image, ce sont des impulsions du cœur. Donc, quand on tient, ce sont des vrais fruits, hein. ils sont frais, là, encore. Donc, j'ai mis de l'électronique à l'intérieur, et quand on les tient, en fait, les impulsions de son cœur sont capturées et transmises à l'autre, en fait, sans fil, donc deux personnes peuvent interagir, et la personne qui tient l'autre ressent en fait l'autre comment ça s'appelle déjà, ça, une citrouille, l'autre citrouille ou une coloquinte, c'est une coloquinte, ressent les impulsions du cœur, mais vraiment comme des impulsions, c'est-à-dire que ça bat, donc, c'est comme si on tenait un cœur en fait, en gros, et on l'entend pas. Et en tenant évidemment ça, on envoie aussi à l'autre ses impulsions du cœur. Donc c'est un échange entre les deux.
Voilà. Est-ce que c'est comme un détecteur de mensonges ?
Non, pas vraiment. On pourrait éventuellement le transformer.
Non, mais ça fonctionne quand même un petit peu, parce que si on est excité, le pouls, non ?
Oui, le pouls.
Le pouls commence à battre plus fort, et peut-être comme ça on peut voir que...
Oui, ce sont
des... c'est une mensonge.
Ce sont des choses très personnelles, finalement, qui sont transmises à distance. Et avant d'avoir fait ce travail, je ne savais pas que les cœurs étaient aussi différents, en fait. Chaque personne a un cœur vraiment très, très différent. Les battements sont différents, la puissance du battement aussi. Donc, les enfants ont des cœurs très rapides, etc. Donc, on peut ressentir tout ça, et on peut ressentir le stress aussi. Ouais. Il m'arrivait d'en avoir un dans la main pendant que j'avais une interview. Mon cœur battait très fort. Christa avait le truc dans la main. Et donc, c'était rigolo de voir un petit peu comment on peut passer des émotions comme ça, discrètement.
Et est-ce que vous avez aussi eu des expériences? Parce que si ma réaction est transportée chez toi,
oui.
Toi tu as aussi une réaction et c'est
un cycle.
Un cycle.
Oui.
Est-ce que vous avez fait des recherches là-dessus aussi?
Pas vraiment des recherches, non, c'est juste des remarques qu'on a pu faire. On demandait aux gens ce qu'ils en pensaient. Donc on a vu aussi que certains aimaient le faire en couple, par exemple.
Oui.
Mais c'est vrai que c'est encore plus intéressant quand c'est des personnes qui ne se connaissent pas.
Ouais.
Parce que là, il y a une sorte d'échange qui est en même temps intime, dans un espace public, mais ça reste intime quand même. C'est-à-dire que comme personne ne voit ce qui se passe, on le garde pour soi quand même. Donc là, on avait justement fait, dans l'installation, on a mis ces chaises qui sont très, très connues, qui permettent de s'isoler sans isoler. Parce que le son est complètement coupé, finalement, dans ces petites bulles, dans sa bulle, mais en même temps, tout le monde peut s'apercevoir qu'on est en train de faire quelque chose. Donc ça rajoutait un petit peu à cette idée d'intimité dans un espace public. Ce qui se passe aujourd'hui, parce que l'utilisation des téléphones portables a changé complètement le lien qu'on a entre sa relation personnelle avec une personne qu'on ne voit pas et puis le public. Tout le monde parle maintenant dans la rue, alors que ça n'arrivait pas avant, il y a à peine 15 ans. Donc c'est un changement dramatique qui s'est passé. Donc c'est un petit peu ça, on a voulu l'illustrer un petit peu comme ça.
Quel est le rapport entre la coloquinte et la fonction de l'appareil?
Alors, en fait, c'est un fruit. Donc, c'est un fruit, c'était vivant. Et donc, c'est un rapport plutôt, c'est pas direct. Hein, c'est pas le fruit ne participe pas excessivement au fonctionnement du système. Par contre, le toucher du fruit est très sensuel de la même façon. C'est-à-dire que c'est une peau, c'est pas un objet en plastique. Ça n'a rien à voir. Et puis, c'est un fruit qui, après 2 semaines, va être complètement dissolu. Donc, il a une vie limitée. Donc, on voulait illustrer un petit peu le système vivant. Donc, les battements du cœur, c'est un signe de vie, en fait. Hein, parce que si on veut savoir si on est vivant ou mort, on regarde si on respire. Il y a deux choses. C'est la respiration et le battement du cœur. Ce sont deux signes vitaux qui sont immédiatement visibles, où on peut le sentir. Et donc là, je n'ai pas parlé encore, mais on peut aussi transmettre le souffle, en fait. Il y a à l'intérieur de la coloquinte, si on souffle dessus, en fait, il y a un petit ventilateur de l'autre côté qui va retransmettre aussi le souffle. Donc c'est les deux signes vitaux sont transmis.
Mais c'est une approche assez surréaliste.
Avec les haptiques.
pas avoir de doute sur la façon dont c'est fabriqué, donc il y a deux petites lampes sur la coloquinte qui permettent de vérifier que c'est bien son impulsion du cœur, donc que ce n'est pas quelque chose de fabriqué à l'avance, parce qu'on pourrait toujours tricher. Donc c'est vraiment, on peut vérifier, c'est bien son pouls qui est capturé. Et en même temps, on voit l'autre personne aussi, on voit visuellement aussi le battement. J'ai rajouté ça parce que c'était difficile de savoir ce qui se passe, parce qu'on n'est pas habitué en fait à avoir juste des sensations de toucher. Donc il a fallu rajouter quelque chose un peu visuel pour confirmer que c'était vrai. Alors une autre œuvre qui a été faite en 2006 s'appelle Life Writer. Et dans cette pièce, il y a une vieille machine à écrire, en fait. Hein. Elle date des années 30-35, en fait. Donc,
on a acheté ici sur le
marché de Nice. Alors, personne n'en veut de ces machines, parce que ça ne sert plus à rien. C'est juste une machine à capturer la poussière. Donc, mais elle fonctionne quand même. Donc, je l'ai modifiée. J'ai rajouté des circuits électroniques à l'intérieur. Ce n'est pas visible de l'extérieur. Donc, qui permettent de capturer, en fait, quelles touches ont été appuyées. Et puis, en même temps, je l'ai équipé aussi sur les côtés de capteurs qui permettent de savoir si on tourne, par exemple, le chariot ou si on le bouge. Donc là, tout est équipé. Et en fait, le papier, ici, me sert d'écran. Donc il y a un projecteur qui se trouve au-dessus de la tête des jambes. Donc on le voit pas, il est au plafond. Et qui projette une image sur ce papier. Pardon ? C'est du papier, oui. Là, il est très lumineux parce que là, il y a un contraste très fort entre la pièce et l'écran. Mais vous allez voir sur le film, on voit très très bien ce qui se passe sur le papier. Là, ça reprend le même principe que le verbarium, c'est-à-dire qu'on tape le texte, donc ce qu'on veut, hein, sur la machine à écrire. On voit le texte s'inscrire, comme sur une machine à écrire ordinaire. Et lorsque on tourne le chariot, le texte se regroupe et fabrique une petite créature. Donc là, elle va faire une sorte d'insecte qui est, encore une fois, donc c'est des algorithmes. Ces insectes vont être uniques. À chaque fois qu'on tape quelque chose de particulier, on va se retrouver avec un insecte particulier. Ces insectes sont calculés physiquement, c'est-à-dire qu'ils ont des pattes, ils ont des paires de pattes, donc c'est symétrique. Ils ont un corps, puis en général, ça part juste d'un cercle, puis après, c'est déformé, etc. Ça dépend de ce qu'on écrit. Donc on va se retrouver une sorte d'insecte qui peut être assez lourd, par exemple avec des petites pattes. Donc avec des petites pattes, il ne va pas bouger beaucoup. Certains n'arrivent pas du tout à bouger, mais certains insectes arrivent à bouger très bien. Pour tourner, ils se débrouillent par eux-mêmes, donc je ne leur dis pas comment il faut faire pour arriver quelque part, mais ils y arrivent très bien, ils essayent. Donc la seule notion qu'ils ont pour se déplacer, c'est la distance. Donc, s'il y a un point où ils veulent aller, ils vont essayer quelque chose avec leurs pattes, donc essayer quelque chose, et s'ils voient qu'ils s'éloignent, ils font le contraire. C'est très simple, mais ça fonctionne très bien. C'est-à-dire qu'au début, ça fait un peu ça, puis après, ça va très très bien. Même si ça bouge, ils arrivent à quand même le rattraper. Donc, à partir de ce principe-là, on peut les faire se reproduire. Donc, pour se reproduire, il faut qu'ils se rencontrent, quand même. Enfin, bon, ils essayent. Mais il faut les nourrir. Donc, pour les nourrir, ils mangent les lettres, en fait. Ils mangent les lettres que les gens tapent, en fait, sur les comptes. Et ça, c'est... Donc, au bout d'un certain temps, au départ, on a juste quelques créatures, mais il peut y en avoir 200, il peut y en avoir 1000. Et au bout d'un certain temps, c'est impossible de taper quoi que ce soit, parce que, justement, elles mangent tout ce qu'on tape. Donc, on se retrouve envahi, en fait, de ce qu'on a créé, parce qu'on a créé. Donc, c'est un petit peu l'idée que, finalement, ce qu'on crée nous échappe complètement, en général. Voilà, je vous montre un petit film qui va illustrer ça plus pratiquement.
They're trying to crawl out, don't they?
Donc là, on n'a pas trop vu les créatures, mais en fait, donc on peut les créer, donc on peut les rentrer à l'intérieur. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais quand on bouge donc le chariot, ça se déplace. Donc on a l'impression vraiment qu'ils sont sur le papier. Donc j'ai essayé de le faire le plus physiquement possible. Sur le, quand le chariot se déplace, les créatures se déplacent sur le papier. Donc là, on a l'impression que le papier est vraiment le support pour ces créatures pour vivre à l'intérieur. Donc elles ont en fait que cet espace pour se reproduire. Et donc comme il peut y en avoir beaucoup, on peut s'en débarrasser aussi. C'est-à-dire qu'on peut les re-rentrer dans la machine en, le, en forçant un petit peu. On peut les remettre à l'intérieur ou on peut les faire sortir aussi.
Ce sont des feuilles ou bien c'est sans fin, là, le papier?
Alors, c'est encore une astuce. De tout est, dans l'art électronique, en fait, ce sont souvent des illusions. Donc, c'est basé sur l'illusion que le papier bouge, en fait. Mais le papier ne bouge pas. Le papier ne bouge pas. En fait, quand on fait ça, ce n'est que l'image, c'est l'image qui bouge, mais le papier, lui, ne bouge pas. On a toujours l'impression que le papier bouge avec, mais en fait, il n'est pas infini, donc il est fixé en fait sur la machine. Donc c'est l'illusion que ça se produit comme ça.
Mais les chariots, ils bougent vraiment.
Le chariot peut bouger, oui, mais l'image bouge avec. Donc. Voilà. Donc cette pièce évolue aussi. Hein, donc plus on interagit, plus les créatures se reproduisent. Plus elles deviennent rapides. On peut faire même des petites compétitions avec, c'est-à-dire qu'on peut les pousser au bout de la page et puis mettre un peu de lettres et puis voir lesquelles peuvent se diriger le plus rapidement possible. Donc les premiers arrivés sont les premiers servis et donc les premiers à se reproduire encore. Donc si on continue comme ça pendant 10 fois, on obtient vraiment des choses qui ont été créées plus rapidement, enfin, qui, par le système en fait, qui sont plus performantes.
Et peut-être aussi pour le contexte un petit peu maintenant, parce qu'on a aussi beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup d'artistes qui sont intéressés de réutiliser les médias qui sont déjà morts, comme les machines à taper ou les vieux téléphones ou les vieux trucs que personne n'a besoin, et réadapter pour faire des œuvres d'art avec.
Ça donne une nouvelle vie à ces objets obsolètes.
Media archaeology.
Voilà.
Non, ça existe vraiment.
Oui. Oui. Alors là, je vous montre quelque chose qui est très récent, parce que ça, on l'a fait en 2010, et c'est quelque chose de très, très différent conceptuellement. C'est beaucoup plus conceptuel que les autres pièces. Il s'agit d'une peinture, en fait, qu'on a achetée au Dorotheum à Vienne. Et on l'a équipée d'une imprimante, en fait. Donc elle est juste dessous l'imprimante, on voit le papier qui est en bas, enfin, je vous montre ici. Et l'interaction est très simple, en fait, on est devant la peinture, et il y a un petit ordinateur qui calcule juste le temps qu'on est resté, en fait, devant la peinture, et qui affiche le nouveau prix. En fait. Donc le prix augmente à fur et à mesure qu'on regarde. Donc, plus il y a de visiteurs, plus le prix est haut. Hein, donc, et c'est comme dans un magasin, donc c'est présenté de la même façon. Donc, il y a le nouveau prix et puis l'interaction, etc. Donc là, ça s'inspire en fait de ce qu'on appelle de l'économie liée à l'attention. Hein, donc, c'est vrai en fait. Dans un musée, plus on regarde, plus il y a de visiteurs, plus il y a d'argent pour le musée. En fait, en gros, il y a un lien direct entre les œuvres exposées et l'argent gagné par le musée. Ça, c'est très simple à vérifier. Mais en même temps, une œuvre d'art a un prix qui est complètement subjectif. En fait, il est complètement arbitraire. Parce qu'on peut dire que ça coûte très cher ou ça coûte pas cher. Ça dépend de beaucoup de critères, mais ce sont des critères quand même qui sont basés sur des choses qui n'ont pas de logique, hein, pas une logique directe, disons. Donc, on s'en est inspiré. Et donc, on a fait six peintures interactives qui sont basées sur le même principe. Donc là, on l'avait exposé celle-ci à Poznan, en Pologne, et le prix est monté très très haut. Le prix de départ était, je pense, de 300 euros ou 400.
Alors, au début, c'était 2000 euros,
ah oui, 2000
maintenant
euros, oui.
C'est à peu près 1000.
C'est à peu près 10 000. Donc c'est monté très vite.
Et on a les records, pour, on peut regarder exactement combien de temps les gens
ont passé devant. Oui, ils sont passés devant. Mm-hmm.
Mais il faut trouver quelqu'un qui veut acheter ça quand même.
Je voulais juste vous demander, vous l'avez déjà
vendu. On l'a exposé. Plus on l'expose, plus le prix monte. Non, pas pour l'instant. Non. Il est dans une galerie à Cologne, si ça vous intéresse.
Mais c'est aussi un peu autocritique parce que, comme vous peut-être reconnaissez, Iris et aussi Ingrid, que art interactif, ça n'a pas vraiment une valeur dans le marché d'art.
Voilà, il n'y a pas de marché de l'art pour l'art des médias encore, enfin, toujours pas implémenté.
C'est autocriticisme aussi.
On a fait d'autres pièces aussi récemment, encore en 2010. Ce sont des vieilles radios, encore donc un petit peu ce recyclage de vieilles machines. Des radios des années 50 que j'ai modifiées et je leur ai donné du son en fait, mais du son qui n'est pas de la radio. Ce sont des sons corporels en fait, bien de l'intérieur du corps, de l'extérieur. Ce sont des sons qu'on n'a pas envie d'entendre en fait, en gros. Mais ce qu'il y a d'attirant dans la technologie, c'est qu'on a toujours envie d'interagir avec. Donc on voit une vieille radio, on a envie de l'essayer. Donc c'était un petit peu cette idée que finalement on est toujours maintenant un peu prisonnier de cette technologie qui est très attirante, qui promet beaucoup de choses, mais en même temps on est complètement prisonnier de tout ça. Et c'est une sorte de pollution dans un sens. Donc là, c'était un petit peu l'idée aussi un peu critique d'avoir quelque chose qui est... Ce sont des belles machines, ce sont des anciennes machines. Mais en même temps, on a une interaction un petit peu différente avec celle-ci, parce qu'on a envie d'explorer, et en même temps, c'est quelque chose qui, en public, on est gêné. On est encore gêné d'écouter le bruit qu'on fait en rotant, par exemple, ou en faisant des choses comme ça. Donc, il y a tout ça enregistré à l'intérieur. Il y a plus de 100 sons, en fait, différents, et qui sont donc... On peut interagir avec tous les boutons de la machine pour les entendre. Donc on l'a exposé au Chili, et donc il y avait 5 machines qui peuvent diffuser donc ces sons très différents.
Et c'est aussi sur la surcommunication, parce que c'est vrai, aujourd'hui on a des flat rates et les gens parlent peut-être dans les trains tout le temps. Et n'importe quoi, et il écrit même très fort, et on entend toutes les choses qu'on n'a vraiment pas
envie de
savoir, et c'est aussi un peu sur ça, sur cette surcommunication.
Donc c'est même une réflexion par rapport à nous, c'est-à-dire que vous avez vu au départ, on était très attirés par tout ce qui était technologique, donc on fabriquait des choses, mais en même temps on se rend compte qu'on est complètement à l'intérieur, et qu'il est très difficile maintenant de s'en séparer, c'est-à-dire que... On est quand même assez prisonnier de ces téléphones mobiles, de beaucoup de choses. L'Internet aussi.
Et quand vous utilisez ces vieilles machines, vous jouez un petit peu avec la surprise, avec on n'entend pas ou on n'attend pas la réaction de cette machine. Voilà. On est habitué à cette vieille radio ou bien à un téléphone normal. La réaction normale, on la connaît, mais là, on est surpris que c'est différent là.
Voilà. Mm-hmm. Ouais. Oui, c'était sur ce jeu de tout ça, c'est codifié. On connaît un petit peu tout ce qui s'est passé dans ces machines. On sait ce qu'elles ont fabriqué, pourquoi elles étaient fabriquées. Donc, rajouter une interaction différente par-dessus permet de redécouvrir un petit peu le potentiel de ces machines, mais en même temps de se rendre compte que cette technologie, on en a une idée, en fait, simplement. Et donc, on ne peut pas explorer l'ensemble de tous les potentiels de ces machines en même temps.
Mais en même temps, c'est aussi une question des générations. Par exemple, les jeunes, ils ne savent pas comment on peut utiliser une machine à taper des années 30. Parce qu'ils touchent très, très...
doucement.
Oui, doucement, oui. Ils ne savent pas qu'il faut pousser un peu plus fort. Et même avec les radios comme ça, ils ne savent pas que... Il faut tourner les boutons.
Mm-hmm. Vous connaissez cette histoire que, disons, les machines à écrire, le Remington, tout d'abord, ça fonctionnait autrement. On mettait les lettres qui étaient les plus utilisées juste une à côté de l'autre, mais finalement les sténotypistes étaient tellement rapides que les, disons, les leviers s'emmêlaient tout le temps. C'est pour ça qu'on a donc éloigné les lettres ST. Ça nous est resté. Aujourd'hui, on aurait d'autres possibilités. On a toujours le même clavier qui est complètement, disons, qui est beaucoup moins puissant que celui au 19e siècle qui aurait été beaucoup plus performant.
Oui, exactement. C'est très difficile de changer un standard, en fait.
Oui, on peut plus changer. On peut plus changer. Je ne sais pas, peut-être un jour, mais actuellement, il est tellement... C'est presque plus pensable.
Oui, c'est vrai. Même sur les écrans tactiles, c'est toujours un clavier ordinaire, alors qu'on peut faire ce qu'on veut avec, mais non. Voilà, alors donc on a publié aussi quelques livres, il y en a un ici, donc devant Christa, donc qui regroupe un petit peu tous ces travaux qu'on a montrés ici. Si vous voulez jeter un coup d'œil. Et là, ici, donc, c'est notre adresse, si vous voulez plus d'informations. Mais si vous avez des questions ou des choses comme ça, ou si je peux vous montrer. Je peux vous montrer quelque chose là, directement. Je vous ai préparé quelque chose. Donc, on a une pièce qui s'appelle Last Species, qui s'inspire encore d'une même chose. Donc, je vais vous montrer directement comment ça marche. Donc là, si je tape mon nom, par exemple, je crée cette petite chose au milieu, si vous la voyez maintenant bouger. Donc là, celle-ci bouge en battant des... Enfin, ce n'est pas des ailes, mais ce sont des pattes, donc à l'intérieur de l'eau simulée. Et elles peuvent se diriger. Donc je vais mettre des lettres, comme ça, sur l'écran. Et elles commencent à les manger. Je vais en faire une autre. Par hasard. Donc là, elles essayent de se rencontrer. C'est pas facile. On va mettre un petit peu de temps.
Ah, ça fonctionne pas.
J'en fais plein d'autres.
C'est moi ça.
Voilà. Voilà, donc je distribue un peu de nourriture un peu partout. Et puis après, ben, elles se reproduisent. Donc c'est un peu comme dans un nid de fourmis. Il faut savoir un petit peu comment repérer les choses. Mais on peut s'apercevoir de la façon dont elles se reproduisent en fait en se rencontrant. Mais comme c'est pas facile, elles commencent à tourner les unes autour de l'autre, c'est-à-dire qu'elles essaient d'ajuster leur position. Et la plupart du temps, ça fonctionne. Si ça fonctionne pas au bout d'un certain temps, elles s'en vont et puis elles remangent quelque chose, qu'elles n'ont plus d'énergie pour continuer.
Et il devient aussi plus grand, non?
Oui, plus gros. Il mange, puis il grossit.
Et il meurt de temps en temps quand il ne sont pas assez mangé. Il tombe. On a exposé aussi ça de temps en temps dans les musées de sciences parce qu'ils ont utilisé ça pour montrer un petit peu comment ça marche, l'évolution, mais surtout dans le domaine de l'edutainment.
Voilà.
Alors, selon vos expériences depuis 1991 ou plus tôt, la technologie a complètement changé pour tout ce que vous faites là. Quelles étaient les choses qui ont changé le meilleur ou qui ont
qui ont eu le plus grand développement selon vous pour votre travail. Est-ce qu'on peut dire
oui,
dans quelle mesure il y a...
En fait, en presque 20 ans, donc on a traversé plusieurs périodes de vision, en fait, hein, qui étaient communes à beaucoup de personnes. Donc, une était particulièrement forte, c'était la réalité virtuelle à l'époque, dans les années fin 90. On avait l'impression que d'un seul coup, il y aurait une énorme révolution, hein, de tout allait être virtuel. On allait vivre dans un monde virtuel dans les années 2000, en fait. Ce n'est pas arrivé. Et donc, on voit que ces visions-là sont transférées sans arrêt. C'est-à-dire qu'il y a une vision à court terme. On voit que la technologie commence à prendre forme. Quand on a commencé, donc l'Internet n'existait pas encore sous la forme qu'on a maintenant. Donc les Américains l'avaient déjà sous forme d'email, donc ça s'est existé depuis longtemps. Quand on est arrivé aux États-Unis à Chicago, on a travaillé dans le laboratoire qui a donné naissance au premier
web browser,
comment ça s'appelle en français, navigateur Internet. Donc avec la première page de présentation, c'est quelqu'un qui travaillait là, un étudiant qui a fabriqué ça. Donc pour la première fois. Donc c'était intéressant parce que là, il y a eu un boom gigantesque de l'Internet tel qu'on connaît maintenant, qui n'était prévu par personne. Absolument personne ne l'avait prévu. Et c'est né comme ça, d'un seul coup, il y a eu un engouement pour ça, gigantesque au début aux États-Unis, puis après ça s'est propagé très très vite. Et c'était étonnant, vraiment. Donc ces visions qui sont établies au départ, qui promettent tellement de choses, en général, meurent très vite. C'est ce que j'ai pu remarquer. Alors que celles qui sont, comme par exemple les téléphones mobiles, non plus, ça n'a pas été quelque chose qui avait été prévu de cette ampleur au départ. C'était juste un moyen pratique, en fait, de pouvoir se balader et téléphoner. Les premiers téléphones étaient gigantesques. Mais c'est quelque chose qui était difficile à prévoir au départ. La technologie l'a permis. Donc, maintenant, je ne sais pas quelle vision on a vraiment du futur, parce que ça peut être basé sur les technologies d'aujourd'hui et ça peut être révolutionné demain. Donc, c'est toujours une surprise, dans un sens. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est beaucoup plus créatif qu'on l'imagine, finalement. Mais ça prend toujours des détours différents. Notre vision est toujours tellement cernée par ce qu'on connaît, en fait. C'est difficile d'imaginer autre chose.
Des questions de votre côté ? Peut-être. J'ai encore une question parce que ça m'intéresse. Comment est-ce que vous voyez le changement d'interaction des hommes vers la machine pendant ce temps-là? Parce que j'ai lu au journal avant-hier qu'une entreprise à Linz a créé une sorte de, je sais pas comment ça s'appelle, un chapeau qui détecte les réactions du cerveau et avec ça on peut gérer des machines. Alors ce sont des trucs énormes qu'on n'a pas pensé il y a 20 ans ou 30 ans. Et comment est-ce que vous voyez ces changements d'interaction? Et ça me rappelle aussi un proverbe ou une phrase dans le cadre de la recherche l'intelligence artificielle. Je l'ai dit en anglais, the real danger is not that that machines begin to think like men, but that men begin to think like machines. Mm-hmm. Et c'est quelque chose qui comment est-ce que vous voyez ça?
Non, c'est vrai. Il y a toujours les deux. Il y a une phase d'engouement très très forte. Par exemple, Second Life, c'était un engouement énorme. Et puis d'un seul coup, plus personne n'a envie de le faire. Et on a envie de retrouver l'aspect physique. C'est toujours cette chose étrange. D'un seul coup, il y a un espace très ouvert et on est à l'intérieur, on expérimente et puis on a envie de revenir finalement à l'espace où on était au départ. On a envie de parler aux gens, on a envie d'être à côté. Et c'est sans arrêt donc si on peut contrôler des choses avec le cerveau, je suis sûr qu'il y a des mouvements contre ce genre de choses qui vont essayer de faire une sorte de balance entre ces deux systèmes. Finalement, on arrive à avoir quand même une sorte d'harmonie entre l'utilisation de la technologie et puis l'aspect humain quand même de notre société qui revient toujours un petit peu. Je ne sais pas si c'est exactement la question que vous posez, mais oui.
Mais la interaction, c'est aussi devenu un peu plus intuitif. Oui. Et c'est souvent les artistes, déjà il y a 20 ans, qui ont fait des interfaces intuitives. Et maintenant, ça est devenu...
Des produits industriels.
Oui, aussi.
Oui, c'est vrai. Oui.
Maintenant,
oui.
Ils veulent avoir des interfaces plus intuitives. Et miniatures, plus, mm-hmm. plus cachées, invisibles.
Mm-hmm. Tu attends le micro, s'il te plaît.
Une petite remarque sur l'effet de l'Internet sur nos compatriotes français. Jusqu'à la fin des années 90, pour les Français, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait que le Minitel.
Oui, oui.
Le Minitel, c'était bien suffisant parce que c'était français, ça parlait français, et comme ça, on n'avait pas besoin d'avoir aucun rapport avec les autres. Et je pense que l'Internet a permis aux Français de comprendre la globalisation et de leur faire comprendre qu'ils n'habitent pas sur une île isolée, mais qu'il faut faire avec tout le reste du monde. Et je pense que dans ce sens-là, c'est une très bonne invention. Ça leur a aussi permis d'être obligés d'apprendre l'anglais, ce qu'ils n'auraient jamais fait sinon. On peut rire, mais c'est grave, parce que je pense que le problème principal des Français aujourd'hui, c'est leur comportement des 20 dernières années et leur manque d'intérêt total pour les civilisations des autres pays. Et maintenant, ils sont obligés de le faire, mais ils ont pris un retard important et je les encourage à le combler aussi bien que possible.
Merci Jacques pour ces aspects français et je crois que c'est... Oui, bien sûr. Et je crois que c'est bien pour terminer notre manifestation. Tout d'abord, je tiens à remercier Laurent et Christa pour leur participation. Je remercie aussi Iris et son équipe pour les croissants. Il y en a encore. Faut que je vous dise que normalement ici on ne sert pas des croissants, mais justement, pour aujourd'hui, on a servi des croissants pour mettre aussi un petit aspect français ici à ce salon, Kepler Salon. Et Iris, tu permets que j'ai quelques remarques qui sont ici sur ce papier-là. Alors, il y aura demain encore un Kepler Salon sur le sujet les bibliothèques au temps de Google, bibliothèque named Google Zeitalter. Et le 4 juillet, sur les étoiles et les télescopes, c'est M. Kirschbaumer qui est le chef de l'Institut de l'Astronomie de l'Université de Vienne. Et oui, il y a encore, je crois, un petit livre d'or où on peut s'inscrire là, c'est ça, le Gestepo? Non, il y en a? Oui, il y a. Et oui, alors de mon côté, je vous remercie beaucoup d'être venu et j'espère que ça vous a apporté quelques aspects intéressants à ce dimanche matin. Et je vous souhaite un excellent dimanche et merci d'être venu.
Merci.
Merci à vous. Mmh.